Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ouf, la France est dans la moyenne. L'enquête PISA qui compare les connaissances et les compétences des élèves de l'OCDE vient de livrer sa dernière mouture ce mardi. La dégringolade que certains prédisaient n'a pas eu lieu. Si notre système scolaire reste toujours très inégalitaire, le niveau des élèves se maintient, que ce soit en sciences, en mathématiques et en lecture, à un niveau moyen certes, mais il se maintient. De quoi compenser la très mauvaise note attribuée la semaine dernière par l'enquête TIMSS, cette fois sur les compétences en maths et en sciences en CM1. La France y arrivait bonne dernière de l'Union européenne. Alors le sujet ne manquera pas d'alimenter l'éternel débat sur l'école, ses missions, ses failles, ses réformes inabouties. Et ce soir, c'est moins à la structure qu'à ceux qui la font vivre que nous avons choisi de nous intéresser, en posant la question de la responsabilité des enseignants dans les performances moyennes de leurs élèves. Alors y a-t-il un problème de niveau des profs ? C'est donc la question que nous allons poser ce soir à trois invités. Catherine Nave-Bekti, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la secrétaire générale du SGEN CFDT, le syndicat général de l'éducation nationale, qui concerne le premier et le second degré. Vous avez enseigné pendant quelques années dans l'académie de Créteil, enseignement en lycée, c'est ça ?
J'ai enseigné en lycée, oui, en tant que professeur de sciences économiques et sociales. Si je peux me permettre, le SGEN CFDT représente aussi les personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Voilà, j'avais résumé au premier et au second degré simplement par rapport à notre discussion de ce soir. Deuxième invité, Alexandra Redeker, bonsoir.
Bonsoir.
Responsable du master MEEF, mention PLC de SES à Paradis Nanterre. Alors, petite traduction, MEEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, mention PLC, professeur de lycée et de collège, SES, sciences économiques et sociales. Et puis, troisième invité, Xavier Sorbe, bonsoir.
Bonsoir.
Inspecteur général de l'éducation nationale. Vous avez été le président du jury du CAPES externe de mathématiques jusqu'en 2014 et vous avez notamment été responsable, alors parmi quelques-unes de vos fonctions, responsable académique de la formation continue des personnels. Alors, je voudrais d'abord vous interroger les uns et les autres sur la façon dont nous avons formulé la question ce soir. Y a-t-il un problème de niveau des profs? C'est vrai qu'on s'interroge assez régulièrement sur le niveau des élèves. Est-ce que ça vous paraît légitime de poser la question de cette manière ou bien c'est une formulation qui peut vous paraître un petit peu gênante? Alexandra Redeker.
Alors, en SES, on a l'habitude des questions gênantes, donc c'est pas forcément gênant d'avoir cette question-là. La question est de définir les notions. À partir du moment où on parle d'un problème, il faut savoir dans quelle mesure c'est un problème. C'est un problème pour le pouvoir public, c'est un problème pour l'ensemble des élèves, peut-être. C'est un problème pour nous, en tant que formateurs, de savoir ce qu'on fait avec le niveau des profs. La deuxième question, c'est évidemment la question du niveau. C'est le niveau de quoi on parle. Est-ce que on parle de niveau disciplinaire? Est-ce qu'on parle de niveau pédagogique, de niveau didactique? Finalement, c'est la capacité des profs à quoi faire et à quoi et qu'est-ce qu'on leur demande qu'on est en train de questionner.
Alors, ce sera justement l'objet de la discussion qu'on va avoir tous ensemble jusqu'à 19h. Xavier Sorbe.
Oui, je pense que c'est une question tout à fait légitime. Le niveau des professeurs a-t-il un impact sur le niveau des élèves? Compte tenu des résultats obtenus par la France aux évaluations internationales, on est en droit de se poser cette question, même si son libellé est un rien provocateur. Un certain nombre d'études ont montré d'ailleurs que, effectivement, les pratiques pédagogiques des enseignants ont un impact sur les résultats des élèves. Malgré tout, je pense que telle qu'elle est formulée, c'est une question qui est peut-être un peu réductrice, c'est-à-dire que tel qu'a pu évoluer le métier d'enseignant au cours des dernières années, on voit que c'est un métier qui s'est largement complexifié, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de détenir des savoirs académiques pour être un bon enseignant. Il faut aussi avoir des qualités pédagogiques, c'est une évidence, avoir une certaine ouverture vers le monde, s'intéresser à l'orientation des élèves, aux métiers qui leur sont proposés, avoir un appétit pour l'utilisation des outils numériques, avoir des qualités relationnelles avec les élèves, avec leurs parents, et j'en passe. Donc c'est un métier qui
s'est complexifié. Tout ça peut d'ailleurs faire partie de ce que l'on appelle le niveau des enseignants. Catherine Nave-Bekti, pour terminer ce tour de table.
Oui, effectivement, la question est provocatrice et peut susciter des réactions négatives, tant elle semble indiquer que les professeurs n'auraient pas le niveau académique, alors même que le niveau de recrutement, le niveau de formation des enseignants s'est élevé ces dernières années dans notre pays. Et pour pouvoir se présenter au concours, il faut avoir un niveau universitaire qui est donc des connaissances académiques validées par l'université. Ce qui serait plus intéressant de réfléchir, et j'espère qu'on aura l'occasion de le faire aujourd'hui, c'est de s'interroger effectivement sur, quel que soit le niveau de recrutement des enseignants, comment on se met tous en capacité d'accompagner nos élèves vers la réussite, et comment le va-et-vient entre la recherche en éducation et les praticiens de l'éducation, c'est-à-dire les enseignants dans les classes, nous mettent tous en capacité de trouver des solutions quand les élèves n'y arrivent pas.
Alors si on a posé cette question de la manière suivante, c'est aussi parce qu'en préparant cette discussion, qu'on n'avait pas forcément, enfin tout à fait formulé de cette manière-là au début, c'est qu'on a recueilli des témoignages, alors qui sont des témoignages de personnes qui sont dans le milieu de l'éducation, qui préféraient ne pas être nommées parce que, ayant peur, voilà, étant fonctionnaire, étant soumise en tout cas à un devoir de réserve, de personnes qui travaillent alors dans les académies de Versailles et de Créteil, qui travaillent dans le premier degré, qui se trouve dans des jurys pour faire passer le concours de professorat des écoles, et qui m'expliquait que sur ces deux académies qui sont confrontées à des besoins massifs d'enseignants, mais à une forme de pénurie de candidats, que en tant que membre de jury, elles étaient incitées à être particulièrement bienveillantes sur le nombre... Surtout sur les notes qui pourraient être données et sur le niveau, on va dire, d'acceptation des futurs professeurs des écoles. Est-ce que ça, en tout cas, c'est quelque chose qui peut exister sur certaines académies où les effectifs sont particulièrement tendus, Catherine Navbekti?
Là où les effectifs sont extrêmement tendus, et pour ce qui concerne le recrutement des professeurs des écoles, on sait que le nombre de postes pourvus dans les académies, là, ce qu'on appelle le rendement des concours, ou le nombre de candidats par poste ouvert au concours, varie considérablement d'une académie à l'autre. Cependant, quand on ne pourvoit pas des postes au concours, ça veut dire qu'ensuite on est amené soit à se retrouver avec des postes non pourvus dans les écoles, ce qui n'est pas plus souhaitable pour la formation de nos élèves dans les écoles, soit au recrutement de personnel non titulaire, ce qui est pas forcément une meilleure solution en termes de qualité de la formation et de durée de la formation auxquelles les personnels, qu'ils soient titulaires ou non titulaires, ont accès pour être les mieux armés, pour accompagner les élèves vers la réussite.
Et puis ça veut dire que faute de mieux, on va accepter des candidats dans certaines académies qui, dans d'autres académies, n'auraient peut-être pas eu le concours, mais qui là, parce qu'il y a des postes à pourvoir, il faut bien les remplir, et donc on les prend quand même, c'est ça ?
Alors, on peut l'interpréter comme ça, mais ensuite, ce qui est important, c'est de constater que dans les ESPE, donc dans les écoles supérieures de professorat et de l'éducation, on forme ces personnels, on les accompagne dans la prise de fonction, dans la prise de poste. Et ce qu'il est important de continuer à développer, parce que c'est un besoin pour tous les personnels, c'est bien la formation continue tout au long de la carrière, et plus spécifiquement à l'entrée dans le métier, puisque c'est des moments importants, l'entrée dans le métier, la prise en compte de la réalité des classes et des difficultés que peuvent rencontrer certains élèves, la différenciation pédagogique aussi. Donc cet accompagnement-là, il est extrêmement important, il doit continuer à se développer, nous en tout cas c'est ce qu'on souhaite au SGEN CFDT, et il existe déjà.
Est-ce qu'il y a une moindre exigence dans le niveau de recrutement qui peut être aussi constatée dans le second degré, Alexandra Redeker et Xavier Sorbe ?
Je voudrais rebondir sur la question du concours. Bien évidemment, un concours implique que certaines années, quelqu'un peut être recruté alors que l'année suivante, il ne le sera pas. Ça dépend de la qualité des candidats qui entourent le futur enseignant. C'est évidemment la même chose dans n'importe quel concours de fonctionnaires. Par exemple, pour les IRA, les instituts régionaux d'administration, de la même manière, peut-être qu'un étudiant pourra être pris sur l'IRA de Lille alors qu'il ne pourra pas être pris sur l'IRA de Paris.
C'est à la limite, ça peut être moins gênant si c'est un enseignant, mettons, qui a eu 10 sur 20 au concours et qui ne sera pas pris alors qu'une autre année pourrait l'être parce que le niveau un peu baissé, que si c'est 5 sur 20. C'est-à-dire que tout est aussi une question de proportion quand même.
Alors tout est une question de proportion évidemment. Je pense que le problème du concours ne se pose pas sur une année et de manière géographique. Il faut de toute façon pourvoir les postes, hein, c'est ce que disait Madame Navbekti. La deuxième chose, c'est que le problème, c'est peut-être que en fonction, malheureusement, hein, des gouvernements, on est quand même dans un monde, l'éducation, qui est extrêmement ouvert, extrêmement sensible, extrêmement visible, et qui fait l'objet de politiques de l'ensemble des gouvernements et qui vont dans un sens, puis dans un autre, puis dans un sens, puis dans un autre, ce qui n'est pas forcément évidemment favorable à la continuité et à l'amélioration structurelle. Sur le second degré, ça dépend énormément des disciplines. Et par exemple, en SES ou en SVT, où on a un bon niveau, on a un taux de réussite qui n'est que de 10%. pour les SES. Par contre, on a des disciplines où on essaye justement de favoriser le recrutement et qui ne sont pas les mêmes. Et puis là, je vais laisser la parole à Xavier Sorbe, puisque du coup, je pense qu'il saura mieux en parler que moi.
Est-ce qu'on peut dire en tout cas, Xavier Sorbe, qu'il y a une forme de loi du marché et que quand il y a des postes à pourvoir, on adapte le niveau de recrutement à la masse de ces postes à pourvoir?
Alors oui et non. Effectivement, le recrutement des enseignants est soumis, comme pour d'autres professions, à des fluctuations assez importantes. Et du fait de la réforme de la masterisation en 2011, du fait de l'allongement de la durée des études, nous avons eu une baisse de l'effectif des viviers de candidats dans toutes les disciplines, mais de façon plus aiguë dans certaines d'entre elles. L'augmentation de la durée des études a engendré une baisse mécanique du nombre de candidats. Ce constat a eu une répercussion sur le niveau global.
Mais ça, c'est un impact conjoncturel, disons.
Exactement. Mais on assiste ces dernières années à un rebond, c'est-à-dire que pour prendre la discipline mathématique, nous avions un peu moins de 3000 candidats au CAPES en 2011, nous en avons cette année plus de 6500. Donc vous voyez qu'il y a un rebond qui est possible et que finalement la difficulté conjoncturelle que nous avons constatée a été dépassée. Je tiens à dire malgré tout, et je pense que tous les présidents de jury de concours, CAPES ou agrégation, tiendraient le même discours, que les jurys n'ont jamais transigé sur le niveau des candidats. J'en veux pour preuve d'ailleurs qu'il y a eu, et nous le regrettons, un certain nombre de postes non pourvus. Pourquoi ? Parce que nous avons estimé que, compte tenu du niveau d'exigence que requiert le recrutement de professeurs certifiés ou de professeurs agrégés, il faut que les candidats détiennent un certain nombre de potentialités et fassent leurs preuves pour être admis au concours.
Donc certains membres de jury témoignent et disent on a de fortes incitations pour être beaucoup plus conciliant, pour être beaucoup plus bienveillant à l'égard des candidats, parce que sinon les postes ne seront pas pourvus. Ça, c'est quelque chose. Alors que c'est quoi ? C'est que vous n'avez jamais rencontré ou auquel vous ne croyez pas, Xavier Sorbe ?
Je pense que ce ne serait pas responsable que de confier la responsabilité d'un service d'enseignement à quelqu'un dont on considère qu'il n'a pas les potentialités, les qualités pour le faire. Qu'après, selon les sessions, il y ait des variations quant au niveau du dernier candidat admis, c'est probable. Mais la responsabilité est prise par l'institution pour que les choses se passent du mieux possible dans les classes par la suite.
Est-ce que justement cette responsabilité, elle n'est pas prise par moment ? Alors peut-être pas via les concours, mais lorsqu'on a recours à des contractuels. Je voudrais vous faire écouter, alors c'est un court extrait d'un reportage qui je pense a pas mal fait discuter dans la communauté enseignante, qui a été diffusé il n'y a pas très longtemps sur France 2 dans Envoyé spécial, extrait du reportage Prof à la gomme. Et c'est un journaliste qui va essayer de se faire embaucher dans un collège, me semble-t-il, comme prof de maths.
L'inspecteur académique a mon dossier juste sous les yeux. Mais apparemment, ni mon faux diplôme, ni l'école imaginaire n'éveillent ses soupçons. L'interro peut commencer.
On va commencer sur le lycée. Est-ce que vous pourriez me préciser le théorème des valeurs intermédiaires ?
Le théorème des valeurs intermédiaires... J'ai oublié.
Est-ce que vous pourriez me donner la définition de l'intervalle de fluctuation ?
L'intervalle de fluctuation, non plus.
Le test n'aura duré que 8 minutes. À la sortie, je suis donc potentiellement professeur de mathématiques. Et je peux être appelé à tout moment pour enseigner au collège. Je suis sidéré.
Voilà, il peut être appelé à tout moment. Il sera appelé justement 3 jours plus tard pour exercer cette fonction de prof de maths. Il fera part de ses doutes justement après quelques jours d'exercice. Mais voilà, sa hiérarchie lui dira il suffit de persévérer un petit peu. On va vous aider. Puis finalement, ça se passera bien. Je précise que vous pouvez. On a mis le lien sur notre site pour voir l'intégralité de ce reportage. Catherine Nave-Bekti, ce qu'on vient d'entendre là, et puis les témoignages que j'évoquais, que j'ai pu recueillir comme ça, parce que bon, je connais quelques personnes dans l'éducation nationale. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît totalement anecdotique ou bien est-ce que ce sont des vraies sources de tension aujourd'hui qui existent, quel que soit le degré, le premier ou le second ?
Mais ce qui est source de tension dans le système éducatif depuis plusieurs années, même si ce n'est pas sur l'ensemble du territoire ni dans toutes les disciplines, c'est bien la difficulté à pourvoir l'ensemble des postes dans les établissements scolaires. Donc il faut aussi prendre la mesure du poids d'une certaine histoire qui est la mandature présidentielle précédente qui s'est traduite par un grand nombre de suppressions de postes dans l'éducation nationale, qui envoyait le signal aux étudiants partout en France que devenir enseignant n'était pas un débouché à choisir, puisque de toute façon, on ne recrutait pas. Et le rapport récent du CNESCO montre qu'il y a un temps de latence assez important entre l'annonce de création de poste, y compris l'annonce dans la durée, puisque avec la loi de refondation de l'école, c'était la première fois qu'on avait une programmation des recrutements sur plusieurs années, et la constitution d'un vivier d'étudiants remplissant les conditions requises pour se présenter au concours.
Donc pardonnez-moi d'insister un peu sur cette question, mais est-ce que ça veut dire que ça peut se traduire dans un certain nombre de cas par des recrutements d'enseignants qui n'auraient pas été recrutés en situation, disons, plus normale ?
Alors, en tout état de cause, ce qui se passe, c'est qu'il y a une forte tension dans le système parce qu'il faut pourvoir les postes. C'est-à-dire qu'il y a une exigence de la nation tout à fait légitime à ce que tous les enfants, partout où ils sont scolarisés, aient les cours auxquels ils ont droit de par le code de l'éducation. Donc, il y a un moment, quand on supprime des postes d'enseignants, il reste des élèves dans les classes pour lesquels il faut des enseignants. Donc, l'ensemble des personnels du système éducatif, et c'est une tension très forte, y compris sur nos collègues administratifs dans les rectorats, qui doivent assurer la cohérence entre un vivier d'enseignants titulaires ou non titulaires, et des postes dans les établissements. Les corps d'inspection pour repérer des enseignants non titulaires qui disposeraient des capacités à enseigner ce qu'on attend d'eux dans les classes. Et aussi des formateurs pour arriver à assurer une formation pour les personnels non titulaires. Parce qu'on sait bien qu'il faut une formation à la prise de poste, une formation pédagogique, une formation didactique. Mais ça, on est contraint de le faire sur des durées extrêmement courtes, ce qui peut donner lieu à des erreurs. Mais il y a quand même un regard extrêmement présent des corps d'inspection, des corps de direction sur les personnels non titulaires qui sont mis en situation d'enseigner. Et beaucoup d'entre eux sont employés de manière régulière par l'État. Et sont évalués régulièrement, visités en classe par les corps d'inspection de manière extrêmement régulière. Donc on est en capacité aussi de repérer ceux qui font bien les choses, et il y en a beaucoup, des contractuels qui font bien les choses.
Et heureusement, d'ailleurs, que c'est bien. Mais vous savez ce que c'est, hein, aussi le journalisme, c'est de voir un petit peu ce qui ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne bien, on en parle un petit peu moins souvent. En tout cas, vous nous dites donc que ça se fait sur des périodes qui peuvent être courtes, mais ça n'est pas en tout cas un problème, si je comprends bien ce que vous dites, structurel. Est-ce que c'est aussi le cas que vous avez pu constater, vous, Xavier Sorp, par rapport au CAPES de maths ? À propos de celui de 2012, c'est aussi pour ça qu'on vous a réinvité, vous disiez ceci, le CAPES de 2012 de maths est le moins sélectif de toute l'histoire du CAPES de mathématiques. Le jury est obligé par la force des choses d'adapter ses exigences dans un souci de pourvoir les postes. Ça veut dire que là aussi c'était une exigence qui était une exigence ponctuelle, mais qu'aujourd'hui, s'agissant des mathématiques, c'est quelque chose qui a fini par se rétablir, se réguler.
Ça s'est régulé, effectivement. Il faut voir les choses sur le long terme, je pense, sur le moyen terme en tout cas, avec un certain sang-froid. Parce que le nombre de postes qui sont mis au concours dépend aussi de facteurs de flux d'enseignants, de départs en retraite notamment, qui se regardent sur une période suffisamment longue pour être appréciés correctement. Donc effectivement, comme je vous l'ai laissé entendre tout à l'heure, nous avons un rebond du nombre d'inscrits de l'ordre de 5% par an, qui nous permet de revenir, je pense, cette année ou à la session suivante, à des taux de remplissage, si on peut dire, du concours qui sont satisfaisants.
Pour les maths, ça se rétablit. Pour les sciences éco, ça se passe aussi plutôt bien. Alexandra Redeka, est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à identifier peut-être des secteurs, des disciplines sur lesquelles c'est un peu plus tendu ?
Alors, en sciences, des secteurs ou des disciplines où ce serait plus tendu. On a les maths, l'ensemble des disciplines pour lesquelles on a créé des masters 1, notamment alternants, puisqu'on commence à développer la formation continue. Donc, on l'a en M1, en M2, c'est en formation initiale. On développe l'alternance en formation initiale et on va évidemment aller plus loin. Et dans les disciplines où on a créé de l'alternance, si je voudrais pas me tromper, mais je crois qu'on a les maths, peut-être en anglais,
langue vivante,
dans les langues vivantes.
Et en lettres.
Et en lettres, voilà. Maintenant, je voudrais quand même rebondir sur la question, sur le fait justement que, on pourvoit les postes. Pourquoi dire le contraire ? De la même manière qu'une entreprise pourvoit un poste avec les candidats qui se présentent. Et quand on fait des entretiens de recrutement en entreprise, les bureaux des ressources humaines sont bien obligés parfois de choisir parmi le moins mauvais.
Sauf que vous avez conscience que quand on dit ça à des gens qui sont aussi parents d'élèves, ah oui, on peut se dire, moi j'ai quand même envie aussi que les profs qui soient recrutés, qui vont transmettre les apprentissages fondamentaux à mes enfants, soient quand même recrutés à un bon niveau.
De la même manière que quand je recrute un maçon ou quand je recrute un cadre, un ingénieur, j'ai envie que l'ingénieur soit capable de faire des plans qui soient corrects. Du coup, la question... Et finalement, qu'est-ce que parviendrait peut-être à faire l'entreprise que nous ne parvenons pas à faire ? Sur la formation, on retombe sur la question de la formation continue. On peut recruter des profs qui sont moins bons que d'autres. mais qu'on va former. Je veux dire, un individu qui est identifié par un inspecteur comme étant quelqu'un qui a envie d'enseigner, qui a les diplômes pour enseigner. Donc, mis à part les profs à la gomme qui font semblant d'eux. Je veux dire, la triche, elle existe partout. C'est malheureux, mais c'est complètement marginal dans le système. Du coup, nous, on va repérer, je veux dire, un mauvais contractuel. On n'aura pas de problème, d'ailleurs, à ne pas le recruter l'année suivante si ça se passe trop mal, s'il n'y a pas de bonne volonté, s'il n'y a pas de formation possible, s'il n'y a pas... on fait des visites extrêmement régulièrement aussi. Si on a la possibilité de former continuellement les enseignants, il n'y a pas de problème du niveau des profs.
Alors justement, est-ce que cette possibilité-là, vous l'avez aujourd'hui, vous l'avez de manière satisfaisante, Catherine Avbekti?
Alors tout d'abord, je tiens à dire qu'effectivement, pour nous, au SGNCFDT, cette histoire de la formation continuée, ce qu'on appelle aussi dans l'enseignement supérieur et la recherche, la formation continuée, c'est-à-dire de travailler la continuité et la cohérence entre la formation initiale et la formation continue des professeurs, nous paraît essentielle. À l'heure actuelle, en matière de formation continue, on est en difficulté. Pourquoi ? Parce que les budgets alloués à la formation continue ont été diminués de manière extrêmement importante par le passé. Et que pour laisser, par exemple, dans le premier degré, pour permettre à un professeur des écoles de partir en formation continue, il faut qu'il soit remplacé. Or, comme on a un problème de pénurie d'enseignants dans un certain nombre de départements, c'est de plus en plus compliqué, voire de plus en plus rare, qu'un professeur des écoles puisse partir en formation continue pour poursuivre sa réflexion pédagogique, didactique, rencontrer des chercheurs, travailler avec des universitaires, parce que la recherche en sciences de l'éducation...
Parce qu'il faut qu'il puisse être remplacé quand il fait sa formation.
Voilà. Et nous, on considère, au SGNCFDT, que cette liaison aussi entre les praticiens et la recherche en sciences de l'éducation, la recherche didactique, est importante pour que tous les enseignants évoluent dans leurs pratiques, parce qu'il faut aussi évoluer dans ces pratiques dans la mesure où les élèves évoluent, dans la mesure où la recherche nous enseigne de nouvelles choses sur des pratiques pédagogiques intéressantes, plus utiles pour faire progresser les élèves. Dans le second degré, la formation continue a aussi perdu en volume budgétaire, donc il y a moins d'offres de formation pour les enseignants. Et nous, on considère aussi qu'il faut que les ESPE disposent des moyens pour être réellement un opérateur de formation continue, parce que cette relation entre la recherche et l'enseignement est utile pour que l'ensemble des professeurs que nous sommes soient dans une posture de recherche, de solution pour leurs élèves.
Xavier Sorbe, la formation continue, la formation initiale, laquelle vous paraît être la plus essentielle entre les deux? Enfin, évidemment, on peut pas choisir, mais en tout cas, s'il devait y avoir un effort particulier fait, ce serait sur lequel niveau de formation?
L'une après l'autre, évidemment, la formation des enseignants est essentielle parce que enseigner, c'est un métier qui s'apprend au même titre que d'autres. On a longtemps cru que l'enseignement, la capacité à enseigner relevait du don. Je pense que nous avons dépassé cette approche naïve des choses et nous sommes maintenant convaincus que les enseignants, au début de leur carrière et tout au long de leur carrière, doivent bénéficier d'un accompagnement et d'une réelle formation. La formation continue a
été... formation, c'est-à-dire une formation, pas tant peut-être en termes de connaissances qu'en termes de capacité à être face à une classe et à transmettre des connaissances, c'est ça?
Certainement les deux. Il y a aussi les connaissances qu'il ne faut pas négliger parce que les savoirs évoluent dans toutes les disciplines. Et donc les savoirs que l'on enseignait en début de carrière ne sont pas les mêmes que ceux que l'on enseignera à la fin. La formation continue a été un peu délaissée, mais il y a eu un effort assez considérable qui a été fait, notamment l'an dernier et cette année, autour de l'accompagnement de la réforme du collège. Je tiens à rappeler que tous les enseignants de collège ont bénéficié, selon les académies, de 6 à 8 jours de formation complète, ce qui est extrêmement important et sans précédent. Maintenant, si l'on veut que cette formation soit efficace, parce que c'est quand même évidemment le but recherché, sans doute faut-il que nous renouvelions les approches de la formation avec d'autres modalités que le stage habituel où on regroupe un certain nombre d'enseignants dans une salle. Il peut y avoir par exemple des échanges de services entre collègues de disciplines différentes ou de niveaux différents, des approches qui soient davantage centrées sur des équipes d'établissement, une ouverture au monde de l'entreprise, une ouverture à l'international. Enfin, il y a des modalités qui doivent être sans doute plus variées, davantage variées qu'elles ne l'étaient auparavant pour réellement accompagner les enseignants et les ouvrir à des pratiques nouvelles.
Et par rapport à la formation initiale, il y a un master qui existe aujourd'hui, le master MEF, enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, en tout cas, oui, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Est-ce que pour vous, Alexandra Redeker, c'est un master qui permet de justement d'assurer correctement et de donner un temps de formation suffisant aux futurs enseignants?
Alors, est-ce que c'est un master qui est satisfaisant? Oui, dans la mesure où, pour exemple, donc, personnellement, je fais partie de la génération sacrifiée, donc zéro formation, agrégé, à temps plein, et puis une formation totalement absente.
Donc recruter avec un haut niveau d'études, mais pas forcément avec une longue formation. Ça a été
avec
extrêmement...
Une absence de formation. Mis à part certains après-midi, de temps à autre, peut-être, je pense qu'on a dû avoir peut-être 8 après-midi, 8 mercredis après-midi, hein, donc évidemment le mercredi après-midi, donc hors temps de travail, quelques réunions qui d'ailleurs se sont avérées très, très pertinentes pour moi, puisque j'ai découvert ce que pouvait être le métier d'enseignant à cette occasion.
Donc par rapport à ça, vous allez dire quoi? Le master MEF,
comment on évolue? Alors d'abord, on a créé une master. Donc on a remonté le niveau de diplôme exigé pour un enseignant. On est quand même sur un niveau de diplôme, notamment par exemple pour le premier degré, qui est parmi les plus élevés au monde dans les enquêtes OCDE. La deuxième chose, c'est est-ce que ce niveau de diplôme élevé est adapté au métier d'enseignant ? Le fait que les Master MEF aient justement mis en place de la pédagogie, de la didactique, du disciplinaire, en tout cas pour les SES et dans le second degré, c'est absolument formidable. C'est plus que formidable. D'une part parce que ça permet d'attirer les étudiants. Et les étudiants sont contents, sont ravis de bénéficier de cette formation.
Maintenant, sauf que je me suis laissé dire qu'ils passaient beaucoup de temps à préparer le concours et que le temps réservé ou dédié à la formation, à la pédagogie, n'était aussi important qu'on le dit.
Le concours évaluant la pédagogie de la personne, il y a deux épreuves disciplinaires, et encore, elles ne sont pas disciplinaires, puisque une composition en sciences économiques et sociales, c'est déjà une épreuve de compétences. Donc les épreuves sont toutes orientées vers la pédagogie. Il n'y a aucune épreuve au concours de SES qui soit hors pédagogie. Apprendre à faire une dissertation, c'est apprendre à argumenter. Si on sait argumenter, on va peut-être pouvoir apprendre à argumenter à quelqu'un. Si on ne sait pas argumenter, on aura beaucoup plus de mal à apprendre à argumenter. D'autre part, on a une épreuve professionnelle qui est une épreuve où on demande à un élève quand même, à un étudiant de Master 1, donc qui a 23 ans, 24 ans, un jeune, de monter une séquence pédagogique. Finalement, le problème, ce n'est pas tant ce qu'on a fait, mais ce qu'il reste à faire. Et ce qu'il reste à faire, c'est étirer cette formation. Pourquoi ? Parce que là, les étudiants, par contre, sont malheureux, ne sont pas attirés parce que, justement, ils ont trop de travail. Tout simplement, parce qu'on ne peut pas prendre une classe à 9h et en même temps être complètement formé. Et en plus, la formation initiale ne suffit pas. Il faut développer le tutorat, il faut développer le travail collectif et développer la formation en T1, T2 et puis tout au long de la vie, évidemment.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Catherine Navbekti?
Alors, sur la nécessité, oui, de poursuivre la formation tout au long de la carrière, nous, SGEN CFDT, c'est clair qu'effectivement, enseigner, ça n'est pas un don et que maîtriser des savoirs académiques ne suffit pas à devenir ou à être un bon enseignant.
J'entendais aussi étirer la formation pendant les études.
Tout à fait, et surtout ce qu'évoquait Alexandra, c'est de développer la formation tout au long de la carrière. Et nous, effectivement, on considère qu'enseigner, c'est un métier que l'on apprend tout au long de la carrière.
Est-ce que vous considérez en tout cas que la formation avant d'entrer dans la carrière, aujourd'hui, est suffisante? Ou bien est-ce qu'il faudrait aussi peut-être commencer par recruter un niveau moins élevé? Il y a le sociologue que vous connaissez tous, François Dubé, qui propose, lui, de recruter les futurs profs à niveau Bac+1 ou Bac+2, mais ensuite de les amener jusqu'à Bac+5, mais en assurant cette formation pendant 3 ans.
Alors, en tout cas, nous, ce qui nous semble clair, c'est que l'apport de la masterisation, en termes de niveau de formation, c'est bien aussi la formation des enseignants par la recherche à leur métier. Et du coup, de développer une capacité à penser sa pratique professionnelle pour la transformer. Et ça nous semble indispensable. Et il faut absolument pour nous, il ne faut pas revenir sur cet acquis de la masterisation, qui est une capacité à analyser ses propres pratiques. Ensuite, nous, on considère qu'il est important de développer un continuum de formation au métier de l'enseignement qui peut commencer avant le master, que l'on touche ou non à la place du concours dans cette histoire-là, mais avec des stages de pré-professionnalisation. On avait constaté dans les formations STAPS que ça portait des fruits. On a constaté ensuite dans l'extension à d'autres disciplines que ne serait-ce que des stages d'observation dans des établissements scolaires, ça pouvait attirer des étudiants ensuite vers la formation au concours. Et si vous me permettez, juste sur la formation continue, il y a eu effectivement un effort ces dernières années. Il faut le poursuivre et ne pas le cantonner seulement à la mise en œuvre de réformes pédagogiques, mais vraiment que ce soit sur l'ensemble de la professionnalité. Effectivement, il y a de l'actualisation des connaissances à faire parce que les connaissances scientifiques changent dans toutes les disciplines, mais toujours connectées à la transposition didactique. Ceci dit, il faut prévoir le temps et le temps qu'on donne, que ce soit aux enseignants individuellement ou aux équipes. Effectivement, la formation sur site d'équipes pédagogiques est extrêmement riche là où elle se fait déjà. Nous, on compte sur la réforme autour de l'accompagnement professionnel des enseignants pour que ces choses se mettent en place véritablement. Mais il faut aussi reconnaître que du coup, des enseignants, dans le cadre de leur travail, ne sont pas face à leurs élèves, mais en train de se former. Et ça, on a encore du mal, socialement et dans le système, à accepter que des enseignants puissent ne pas être face à leur classe un moment pour se former, parce que la formation continue, elle prendra forcément et sur le temps de travail avec les élèves, et sur le temps de travail souvent invisible des enseignants, qui est celui de la préparation des cours, de la correction des copies.
Vous allez sorber.
Je pense que, comme l'a bien dit Alexandra Redeker tout à l'heure, l'un des nœuds de la question que vous soulevez, c'est vraiment la cohérence de notre système et la cohérence que nous sommes en train d'approcher à travers la professionnalisation des concours de recrutement. J'oserais dire d'une formule que, pendant longtemps, on s'est contenté, ce qui était déjà beaucoup, d'apprécier le niveau des candidats sur les savoirs universitaires. Maintenant, les élèves ont fait leur entrée dans les épreuves de concours, notamment les épreuves orales, mais pas seulement. Il est courant que l'on demande aux candidats dans de nombreuses disciplines d'analyser des documents pédagogiques pour essayer d'apprécier quel est le plus pertinent, ou on leur propose dans un certain nombre de disciplines, des productions d'élèves, et ils doivent repérer les erreurs qui ont été commises ou repérer, au contraire, les réussites des élèves, avec la perspective de proposer des pistes de remédiation, d'aide aux élèves en difficulté. Donc, de plus en plus, on approche une forme de cohérence grâce à cette évolution. La masterisation, ce n'est pas simplement rallonger la durée des études, c'est également modifier la nature des épreuves des concours. Et, d'une certaine façon, on s'est approché de situations qui sont semblables à l'exercice du métier de professeur qui est en train de préparer un cours. Au moment où il prépare l'épreuve orale, par exemple, il dispose d'outils numériques, il a accès à des documents, exactement comme il le fera quand il sera en poste. Donc là, il y a une vraie cohérence qui a été approchée de cette façon-là.
Il y a un élément qu'on n'a pas vraiment abordé ce soir dans la discussion, enfin qui a été très très brièvement en tout cas abordé par l'un d'entre vous, je ne me souviens plus lequel, c'est la question de l'attractivité du métier d'enseignant. Est-ce que aujourd'hui, pour vous, Xavier Sorb, c'est un métier qui continue d'attirer des vocations, enfin si tant est que le métier d'enseignant ait jamais peut-être été à ce point justement un métier qui nécessite d'avoir la vocation, mais est-ce qu'on voit quelque chose là aussi qui évolue, et est-ce que le fait de recruter à un haut niveau quand même aujourd'hui, à un haut niveau universitaire, ça n'a pas peut pas avoir une incidence sur cette attractivité du métier?
Je pense qu'en dépit des fluctuations des effectifs que nous évoquions tout à l'heure, la motivation des candidats qui décident de s'engager, de préparer le concours, n'a pas varié. Et je vois que même avec des effectifs réduits, nous avons des candidats extrêmement motivés. Motivés par quoi? Ils sont motivés par l'intensité du travail de préparation des cours, l'intensité de la relation avec les élèves. Le fait de donner accès au sens du monde à travers les disciplines qu'ils enseignent et puis à travers la passion qu'ils ont pour leur discipline. Mais je crois qu'il y a, enfin, à travers l'évolution du métier d'enseignant, il y a des facteurs de motivation nouveaux qui doivent apparaître et qui doivent se renforcer dans les années qui viennent. Par exemple, le fait de travailler en équipe, qui est une obligation. La nature même de l'enseignement au collège ou au lycée oblige à travailler en équipe.
Si je vous entends bien, c'est-à-dire qu'il n'y a que des éléments finalement d'attractivité, il n'y a pas des éléments de répulsion. Par exemple, le fait que les salaires soient quand même pas très élevés quand on est enseignant, ça, c'est pas forcément quelque chose de très attractif. Le fait que peut-être le métier soit dévalorisé, en tout cas pas suffisamment valorisé, soit présenté comme un métier finalement où on ne travaille pas beaucoup, ça arrive aussi dans les médias. C'est ce que me disait voilà, justement une des conseillères pédagogiques avec qui je discutais, et qui faisait aussi le constat, alors s'agissant des professeurs des écoles, de me dire bah, aujourd'hui on se retrouve aussi face à des candidats qui n'ont pas forcément la vocation à être enseignant, mais après tout, ce n'est pas grave, mais qui viennent surtout parce qu'il y a du chômage et parce qu'il faut bien travailler, parce qu'il faut bien manger et que voilà, et que c'est un secteur qui recrute et donc on y va là et on y va un peu par défaut. Est-ce que ça vous arrive de rencontrer ce genre de candidat, Alexandra Redeker?
Bien entendu, c'est évidemment le genre de candidat qu'on a pu avoir ces dernières années et la crise économique n'est pas évidemment est un facteur extrêmement important là-dessus. Mais je suis pas sûre que le métier d'enseignant nécessite de la vocation. J'ai couru toute ma vie après le fait de ne jamais être enseignante, et puis je suis enseignante et j'adore ça. C'est le plus beau métier du monde. Une fois qu'on l'a pratiqué, peut-être après journaliste, je ne sais pas. On pourrait échanger nos postes pour voir peut-être quelques temps. Mais il paraît que les journalistes forment aussi, alors peut-être que finalement c'est un métier qu'on peut partager. Donc d'une part, je pense qu'il n'y a pas de vocation en fait à être enseignant. D'abord, par exemple, nous dans les masters, on a de plus en plus des gens qui sont déjà en formation continue en réalité. Hein. C'est de la formation initiale, mais on a de la formation continue. On a par exemple plein de personnes qui sont des traders.
Je vous interromps, mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si c'est un choix par défaut, même si on choisit ce métier par défaut, ça n'est pas grave. C'est ça, c'est-à-dire ça n'empêche pas de faire ce métier, d'être un bon prof.
C'est pas un métier qu'on choisit, c'est le métier qui vous choisit. On arrive par hasard, parfois oui, en effet, dans le milieu. On se teste, on se cherche. À 21 ans ou à 22 ans, on n'est pas forcément sûr d'être enseignant. Et c'est en faisant des visites, ce que disait Madame Navbekti tout à l'heure, qu'on se rend compte que oui, c'est un métier qu'on a envie de faire. Maintenant, le bonheur et le bien-être n'est là que grâce à la qualification. Quelqu'un qui est qualifié et quelqu'un qui est heureux. Moi, je dis toujours à mes élèves, si vous commencez à essayer de faire des maths et que vous vous améliorez en maths, vous aimerez les maths. De la même manière...
Vos élèves, ils ont envie d'être prof.
Maintenant, je suis qu'avec des étudiants ou des étudiants en université, donc j'ai plus d'élèves, malheureusement, mais ils n'ont pas évidemment envie d'être prof. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, l'attractivité n'est pas là. Il y a une vraie angoisse, il y a une vraie anxiété d'être enseignant, et elle est absolument terrible. Elle est terrible d'abord en M1 et en M2, et ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé ou pas assez parlé. Étant donné que la formation est réunie sur 2 ans, on se retrouve face à des masters qui sont hyper exigeants, qui sont hyper difficiles en nombre d'heures, puisqu'on est sur des nombres d'heures qui sont beaucoup plus importants que sur des nombres d'heures d'un master normal universitaire, avec en plus des modalités de contrôle des connaissances qui sont extrêmement spécifiques, extrêmement difficiles aussi parfois à valider, puisque notre objectif, c'est bien de faire en sorte que le niveau des profs ne diminue pas. Du coup, on se retrouve face à la société tout entière qui est contre soi, aux parents qui sont contre soi, aux élèves qui sont contre soi, peut-être parfois l'administration, les pères et la famille. Moi, j'ai quand même des étudiants qui me disent...
Toutes les familles ne sont pas non plus contre les profs. Il faut pas non plus peut-être exagérer le rejet qui serait
non, mais par contre,
toute
quand
la société contre les enseignants.
Quand l'étudiant devient prof alors qu'il était destiné, par exemple, à être journaliste, pourquoi tu vas être prof?
Je ne suis pas sûr qu'être journaliste, ça soit beaucoup plus prestigieux aujourd'hui, en tout cas, qu'être prof. Catherine Navbekti, pour conclure.
Oui, sur l'attractivité du métier, le rapport récent du CNESCO tend à montrer qu'il n'y a pas tellement un manque d'attractivité du métier en tant que tel, et plutôt une assez grande adéquation entre les représentations qu'auraient les étudiants du métier et sa réalité. Par contre, oui, les étudiants qui s'y destinent et les professeurs en poste souffrent du discours extrêmement négatif de certains hommes politiques en ce moment sur ce qu'est leur vision complètement fausse de notre métier.
Davantage que des niveaux de salaire qui sont quand même assez bas.
Alors, les niveaux de salaire sont aussi une problématique. Il y a une revalorisation qui s'annonce et qui démarre dès le mois de janvier autour de l'acronyme PPCR, parcours professionnel, carrière et rémunération, avec une revalorisation des débuts de carrière et de la carrière sur l'ensemble de sa durée. Et en même temps, on a des indices qui montrent que l'attractivité du métier n'est pas totalement perdue. On a la reprise effectivement de l'augmentation de nouveau des candidatures au concours. Et là, le déficit d'attractivité des dernières années renvoie surtout au yo-yo des postes mis au concours par le passé. Et par ailleurs, par exemple, l'ouverture d'un concours de professeur des écoles spéciales dans l'Académie de Créteil, donc un deuxième concours organisé après les autres, fait le plein depuis 2 ou 3 années successives, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de candidats que de postes qui viennent de toute la France.
Donc deuxième concours, là, c'est pour les recalés des autres académies, quoi, qui peuvent venir passer le concours à Créteil. C'est quand même peut-être pas un modèle non plus.
En tout cas, pour permettre d'éviter qu'il y ait un grand nombre de classes dans le premier degré sans professeur, c'est quand même mieux. Et surtout, on constate que ce concours-là est très attractif, c'est-à-dire qu'il est très sélectif.
Merci en tout cas beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion qui mériterait évidemment d'autres développements, mais l'école, on en parle assez régulièrement dans cette émission. Merci en tout cas à Catherine Navbekti, Alexandra Redeker et Xavier Sorbe. Je vous renvoie également à Rue des Écoles dimanche prochain, Rue des Écoles présentée par Louise Touret, qui sera consacrée spécifiquement aux résultats de PISA. Que nous apprend PISA? Ce sera une émission avec Éric Charbonnier, qui est expert éducation à l'OCDE, Nathalie Mons, sociologue de l'éducation, et Marie Duru-Bella, sociologue également. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Cyril Baer, Isolte Sicard. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis, avec à la prise de son Jean-Guilain Meige. Demain, faut-il refonder l'Europe? Ce sera une discussion entre Hubert Védrine et Jean-Dominique Giuliani. Dans un instant, vous allez retrouver Ping Pong avec Mathilde Serrel et Martin Kénéen. Et tout de suite, c'est le rappel des titres.